Et nous voici à présent dans la dernière heure de cette émission spéciale plus de fraternité. Il nous reste à aborder une thématique dans la responsabilisation des jeunes et ensuite nous parlerons eh bien, de démocratie participative et citoyenne. Mais nous sommes toujours en train d'évoquer la question de la responsabilisation des jeunes, notamment avec notre grand témoin, Olivier Wallard, qui est de l'association Passeport Format et vous y êtes chargé de relations entreprises. Et à présent, eh bien, nous recevons plusieurs invités. Tout d'abord, Antonio Gramont, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes âgé de 15 ans et vous êtes président d'une junior association, la junior association Double J, une association de jeunes d'Arras du quartier Jean Jaurès, qui réalise une série de petites actions afin de financer un voyage en Pologne et de faire bouger le quartier. Vous êtes également accompagné de votre secrétaire Jessie Pochol, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 14 ans, et d'ailleurs Antonio Gramont vous avez 15 ans, et vous êtes tous les deux également accompagnés d'Andy Breton, âgé de 15 ans, bonjour.
Bonjour.
Et de Maxime Bourgeois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes âgé de 14 ans et comme Andy, eh bien, vous êtes membre de cette association. Également à vos côtés, Stéphanie Locqueville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission jeunesse au sein de la Ligue d'enseignement du Pas-de-Calais. Alors, qui a eu l'idée de créer cette association?
Bon, on l'a eu tous ensemble.
Alors, cette association, comment est-ce qu'elle s'est créée? Depuis combien de temps est-ce qu'elle existe?
Bah, elle existe depuis pas longtemps. C'est notre animateur au CAJ, c'est un centre pour les jeunes qu'on a à Jean Jaurès. C'est en fait, il a fait le tour du monde en faisant des petites actions comme ça, et puis il nous a demandé si on voulait faire pareil en créant notre junior association tout ça.
Est-ce que vous connaissiez le dispositif avant de mettre en place cette junior association?
Bah oui, un petit peu. On a vu il y a des associations autour d'Arras.
Alors, pour cette association, l'objectif principal, c'est de financer un voyage en Pologne. Parlez-nous un petit peu de ce projet.
On veut financer le voyage en Pologne parce que il y a beaucoup de quartiers qui aiment bien la Pologne. On veut découvrir la culture de la Pologne. Il n'y a pas que ce voyage-là. Déjà, on va commencer par financer ce voyage-là. Et aussi, on va aussi commencer par financer des autres voyages. Mais bon, on va déjà commencer par celui-là.
Mais plus particulièrement parce qu'il y a des personnes d'origine polonaise aussi qui ont envie de retrouver peut-être des racines de leur pays, ou ça n'a rien à voir?
Non, ça n'a rien à voir. Il y a pas d'origine polonaise. Non, c'est juste parce qu'on a envie de découvrir la Pologne.
Il y en a un qui a pas l'air d'accord à côté de vous.
Non, c'est parce qu'en fait, dans notre quartier, il y a des Bziganes. Donc on a envie de voir comment c'est dans les camps juifs et tout.
Donc effectivement, dans les camps juifs basés en Pologne pour le devoir de mémoire, ce qui est d'ailleurs
d'accord.
Une très bonne initiative. Alors, pour financer ce voyage, vous menez des petites actions au sein de votre association. Qui veut bien nous parler des actions que vous menez dans le cadre de ce projet?
Tout d'abord, on organise des brocantes où on va faire des carouages du style laver des voitures, tout ça. On va dans des tournois de foot, des tournois de ping-pong et essayer de récolter de l'argent.
Alors pour ce projet, pour le mener à bien, il vous faudrait combien d'euros récoltés?
4230, je crois, c'est ça.
4200 à peu près.
Et vous êtes à combien d'euros récoltés là justement depuis...
Là en fait, c'est comment dire, on va déposer notre dossier financier. Mmh. Et on va attendre un peu puis on va faire des actions, mais pour l'instant on est à zéro.
Alors Stéphanie Locqueville, vous êtes chargée de mission jeunesse au sein de la Ligue de l'enseignement et j'imagine que vous suivez aussi de près cette question des juniors associations. Parlez-nous un petit peu du fonctionnement et des particularités des juniors associations par rapport à une association classique justement.
Les juniors associations, en fait, c'est un dispositif qui est vraiment fait pour les mineurs, parce qu'aujourd'hui, même si à partir de 16 ans, on peut faire une association, c'est toujours un peu compliqué. On n'est pas forcément accepté, c'est dur de monter des statuts, etc., de gérer un budget.
Oui, parce que le statut des associations, il a un petit peu évolué. Avant, c'était 18 ans, maintenant c'est
passé à 16 ans, justement. Mmh. Mais c'est vrai que si on a 14 ans, ou même 15 ans, on fait de la musique, on veut faire un groupe ou faire du théâtre, justement, partir en faire un voyage, c'est un peu compliqué. Du coup, la junior association, c'est un bon dispositif là-dessus, parce que du coup il y a quand même un cadre, vous êtes assuré, c'est possible justement d'avoir un compte en banque pour justement faire des petites actions de financement et pouvoir récolter justement cet argent. Donc, et nous, la Ligue de l'enseignement, on est relais sur le département pour les juniors associations, donc pour les jeunes qui veulent faire justement mettre en place leur projet.
C'est-à-dire que vous faites un accompagnement administratif pour la mise en place de ces associations ?
Alors à la base, c'est surtout administratif, parce que ça demande quand même, les garçons pourront peut-être en témoigner, qu'il y a quand même un dossier un peu à construire, qui peut être un peu lourd au début, mine de rien. Donc là, on les accompagne, on les aide, on est obligé de vérifier un peu si tout est bien, parce que la base, c'est quand même que ça soit les jeunes qui proposent leur projet. Donc on fait toujours quand même un peu attention qu'il n'y a pas des adultes derrière qui utilisent un peu les jeunes pour leur projet à eux, donc on est toujours un peu là aussi. Donc au début, c'est surtout notre action, et après, quand l'association est mise en route, c'est surtout de l'accompagnement, de la mise en réseau, de la visibilité aussi, de montrer un peu ce que les jeunes font justement.
Est-ce qu'il y a quand même des restrictions, notamment au niveau bancaire, par rapport à une junior association ?
Pas tant que ça. En fait, c'est possible d'ouvrir un compte en banque. Donc après, là, pour le coup, il y a toujours un peu une vue dessus d'un adulte, le réseau national des juniors associations, qui est l'asso qui gère ça aussi, a toujours un point de vue sur le compte bancaire des jeunes, et on leur demande un bilan financier, etc. Mais il n'y a pas forcément de restrictions. Ils peuvent quand même en ouvrir un, mais après, il faut que ça soit une banque partenaire qui est au courant, que ça soit une junior asso, etc. En fait, ils ont développé un partenariat avec certaines banques qui du coup savent que c'est un accompagnement de jeunes, etc.
Alors Jessie, en tant que secrétaire, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est compliqué la partie administrative dans la construction d'un projet tel que le vôtre ?
Moi non, c'est pas. Enfin, on n'a pas encore bien. Elle est commencée, mais pour l'instant, c'est pas. Il n'y a pas trop de non plus de choses à faire. Il n'y a pas non plus de. Il n'y a pas non plus trop de construction à commencer. Enfin, on a déjà bien commencé, mais il n'y a pas non plus de. C'est pas encore bien commencé en fait.
Donc ça veut dire que vous réunissez aussi tous les combien pour justement travailler sur ce projet, sur le fond, sur le dossier ?
Bah, on organise toujours des réunions tous les mardis soirs vers 19h.
Voilà, donc et ça dure combien de temps à peu près à chaque fois les réunions ?
Entre une heure et demie.
Une heure et demie, vous arrivez à bien avancer donc en une heure et demie à chaque fois ?
Oui, ça va.
Et qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés ?
Le plus de difficultés ?
C'est en fait des fois entre nous en fait on s'entend pas trop bien puis on s'embrouille en fait, genre il y a des idées ça va pas aller à lui, après l'autre il va encore se mêler, il va dire non ça va pas.
Bon, enfin, je vous rassure, on trouve aussi chez les adultes.
Vous n'allez pas vous battre à la sortie du studio, ça va aller.
Et puis on retrouve ça aussi effectivement chez les adultes. Alors on a déjà un petit peu répondu à la question, l'objectif c'est le voyage en Pologne, et d'autres choses seraient a priori réalisées par la suite, toujours dans le cadre de votre junior association. Une fois le voyage en Pologne organisé, quels seront les autres objectifs de l'association ?
Bah, les autres objectifs, c'est de... Comment dire ? De la faire connaître encore plus. Et franchement, des autres projets, on ne sait pas encore. Parce qu'on a plein la tête avec la Pologne, je veux dire. Enfin, on est pressé de partir. Donc, du coup, on ne sait pas encore.
Le départ est prévu pour quand, d'ailleurs ?
Bah, on ne sait pas encore, parce qu'il y a plein de... Enfin, entre nous, on va peut-être tous partir entre juillet et août. Donc, on ne sait pas encore les dates. On ne se fixe pas encore de dates.
Ça dépend aussi, j'imagine, de vos emplois du temps scolaire. Vous êtes tous encore scolarisés, donc j'imagine aussi que ça doit dépendre des examens et des vacances des uns et des autres, la date de fixer la date du voyage.
Oui, aussi.
Alors, cette association-là, vous êtes en train de la piloter actuellement. Vous avez un projet arrêté. Une fois les projets réalisés, justement, est-ce que vous avez envie de continuer au sein de l'association, ou est-ce que vous avez plutôt peut-être envie de passer la main à d'autres jeunes ?
Si notre projet il fait entendre parler, enfin, s'il se fait entendre, et qu'il y a déjà de jeunes qui veulent se joindre à l'association, après, on ne voit pas. On va pas les jeter s'ils veulent venir. Voilà, c'est bien pour eux, ils veulent faire découvrir aussi à eux qu'on peut partir de rien et faire un super projet. Et sinon, voilà.
Alors, Stéphanie Locqueville, est-ce qu'il y a une limite justement pour faire partie du bureau d'une junior association ? Concrètement, est-ce qu'ils peuvent continuer autant qu'ils en auront l'envie, ou est-ce que passé un certain âge, ils devront passer le flambeau à plus jeune qu'eux ?
Non, alors en fait la junior association ça peut aller jusqu'à 18 ans, Après, vous pouvez faire une junior association majeure jusqu'à 20 ans. Donc, en fait, on laisse 2 ans pour dire de faire une junior asso. Après, généralement, on devient une association de loi 1901 normale. Et ça, généralement, c'est pareil. La Ligue accompagne justement les jeunes qui veulent passer en loi 1901. Donc, soit ils décident à 18 ans de la faire directement. Et dans ce cas-là, soit la junior association existe encore et c'est d'autres membres, d'autres jeunes qui se sont greffés au projet. Ou alors, c'est la même junior asso, mais qui devient une association normale.
Et comment vous les trouvez, ces jeunes, au sein de leur association, dans leur fonctionnement, dans leur réflexion ?
Ils sont très bien. Genre, généralement, ça marche plutôt bien. Et c'est vrai que les jeunes qui commencent à s'investir, quand leur projet fonctionne, ils ont tendance à vouloir continuer ou alors justement à passer le flambeau à d'autres jeunes, par exemple du même quartier ou de la même école. Ça arrive souvent que des juniors associations changent de membres un peu tous les ans, en fait, parce qu'ils ont fait un projet et tous les ans, ils modifient les membres, en fait.
Alors, je vais poser la question à chacun d'entre vous. Hein. Qu'est-ce que ça vous a apporté, le fait de vous investir dans une association, dans une junior association, à chacun d'entre vous ?
Pour moi, ça me plaît parce que on peut voyager, on peut faire d'autres activités, enfin des...
Ça permet de concrétiser des projets, en fait.
Ouais, voilà. Mmh. Voilà.
Moi, personnellement, ça me donne beaucoup envie. J'ai envie de donner envie à d'autres jeunes. Pas de mon quartier, mais d'autres jeunes de mon quartier. J'ai envie de leur faire voir que partir de rien, on peut faire plein de choses. Et passer du bon moment avec mes copains aussi.
Donc moi, ça me donne envie parce que j'aimerais bien découvrir de nouvelles cultures et voyager et passer des bons moments.
Bah moi ça me donne envie parce que c'est pareil que Antonio, c'est faire découvrir aux autres jeunes, pas forcément de mon quartier, mais de tout Arras ou même des autres villes à côté, que juste en partant de rien on peut faire des grandes choses et j'ai envie de passer des bons moments avec mes copains et voilà.
Alors si l'on souhaite justement vous rejoindre, comment est-ce qu'on fait pour prendre contact avec votre association ?
Bah il y a le. On a un site web. C'est Facebook, le double J. Et vous pouvez contacter monsieur Alexis Poli, celui notre animateur, enfin celui qui va nous encadrer pendant le voyage.
D'accord, donc ça c'est au niveau de effectivement du CAJ du quartier Jean Jaurès, hein, pour ceux qui voudraient avoir les infos. Et Stéphanie Locqueville, si l'on souhaite plus d'informations sur le fonctionnement d'une junior association, si on souhaite en construire une, à qui s'adresse-t-on au sein de la Ligue de l'enseignement ?
Alors, soit vous adressez à moi, qui est le relais. En fait, de toute façon, je suis la seule relais départementale pour le réseau national. Ou soit vous allez sur le site Junior Association. Donc là, vous allez avoir toutes les démarches. Vous pouvez vous faire une demande en ligne. Et du coup, moi, je reçois la demande de votre junior association, etc. Et là, on se rencontre pour parler du projet, tout ça. Donc, principalement sur Internet, où vous pouvez joindre la Ligue de l'enseignement et vous demander des informations sur les junior associations et vous aurez vos réponses.
Alors, oui, vas-y Jean-Philippe.
Alors d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a évoqué, mais combien de junior associations à peu près dans la région ?
Sur le Pas-de-Calais, en ce moment, on est à 25 actives. Donc ça fait à peu près presque 300 jeunes sur le département qui sont bénévoles dans des junior associations. Et c'est pas mal en développement, donc on espère en avoir plus de jeunes en junior asso prochainement.
Alors vous restez bien sûr avec nous pour continuer le débat. Olivier Wallard, je me tourne à nouveau vers vous. Vous venez d'entendre la présentation du projet de ces jeunes. Je voulais avoir un petit peu votre ressenti justement sur ces junior associations.
Eh ben, je suis heureux, écoutez. Juste un petit message. Alors aujourd'hui, où on vit dans une monotonie ambiante, ça fait plaisir de voir des jeunes de 14-15 ans qui s'investissent pour eux personnellement. J'ai écouté l'expression tout à l'heure qui disait on part de rien, on arrive à quelque chose. C'est le but pour eux de se construire, d'investir, donc il y a du plaisir de se retrouver entre eux, du fun, un objectif final, c'est quand même le projet de pouvoir voyager sur la Pologne, et puis ça les permet également, pour selon moi, de se construire un avenir, parce que petit à petit, ils vont se forger un caractère, ils vont apprendre de nouvelles bases, ils vont aussi apprendre, vous êtes tout à l'heure, on s'engueule entre nous, mais ça va mieux après les règles de vie en communauté, en collectivité, c'est vraiment une bonne approche de la vie de demain pour eux, pour se construire, pour devenir un homme, une femme, quoi, en fait, tout simplement.
Alors j'imagine aussi que l'investissement dans une structure de ce type, c'est un vrai plus sur le CV, mais comment le valoriser ?
Alors, tout simplement, en marquant également tout simplement les compétences clés qu'ils ont pu aborder. J'entendais l'un qui était secrétaire, l'autre qui était président. Donc, à part là, ils ont dû vraiment mobiliser un petit peu des compétences clés qu'ils ont pu, avec peut-être avec la collègue ici présente, mettre en avant. Donc, à eux, dans un CV, de pouvoir absolument et impérativement mettre dans leur CV ces compétences qu'ils ont pu acquérir, bien évidemment.
Jean-Philippe ?
Oui, alors là, il y a une question que tu avais préparée, Julien, et je vais peut-être la poser à tout le monde plutôt qu'à une personne en particulier. Dans un monde toujours plus connecté, où l'on reproche bien souvent aux jeunes le temps passé sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont encore l'envie de s'impliquer ? Est-ce que vous avez encore envie de vous impliquer dans la vie en société ?
On va laisser d'abord Stéphanie Leville répondre.
Je pense que les deux peuvent être liés. Je pense qu'on peut s'inclure dans la société aussi via les médias sociaux. C'est vrai que les jeunes l'utilisent énormément et c'est un outil qui peut être utile pour eux pour se montrer justement dans un projet de jeunes comme cela. C'est quelque chose qui peut être utilisé et effectivement, il faut bien réussir après à s'en servir. Mais c'est vrai que c'est bien de voir les deux en fait. Des jeunes qui sont sur leur portable, mais en même temps des jeunes qui sont actifs dans leur quartier, actifs dans leur vie et qui se bougent un peu pour justement changer leur vie et aussi changer dans la société de manière générale.
Bon bah pareil pour le
la question c'est quoi,
est-ce que vous avez encore envie finalement de voilà, on fait en fait le reproche souvent aux jeunes et particulièrement aux jeunes de
votre
âge
d'être scotché à votre téléphone.
Est-ce que vous avez du coup encore
voilà,
envie
pas,
de
hein, c'est bien.
Est-ce que vous avez quand même encore envie du coup de vous impliquer dans un petit peu dans la vie de la société, de filer des coups de main, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement vous intéresse pas plus que ça et vous êtes finalement peut-être en train de nous démontrer le contraire puisque vous êtes investi dans une association. Donc du coup, voilà, est-ce que vous avez encore envie aujourd'hui de vous investir peut-être encore un peu plus au-delà de votre association dans la vie de tous les jours?
Bah moi personnellement déjà tout ce qui est PlayStation tout ça c'est pas mon kiff. Je préfère être dehors. Et bah oui, on a envie de s'impliquer dans l'association.
Vas-y.
Bah oui, c'est vrai que ça peut être utile aussi des fois les réseaux sociaux en créant des pages Facebook pour nous faire connaître tout ça, mais sinon non, ça me donne encore plus envie.
Bah comme il dit mon ami, c'est comme sur les pages Facebook, on peut se faire connaître comme on en a créé une. Et comme je dis, vous dites rendre des services et tout. Et en fait, nous quatre, on est souvent ensemble. On est plus dans le quartier que sur nos téléphones et tout. Et on parle de notre projet aux grands de notre quartier. On rend des services et puis on fait plein de choses en fait.
Le téléphone, c'est bien pour les filles.
Voilà. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir accepter cette remarque.
Je sais pas. Olivier, voilà. Le téléphone portable, c'est que pour les filles. Non, plus sérieusement, effectivement, est-ce que les jeunes, d'après vous, et vous qui les côtoyez au quotidien de par votre fonction, ont encore l'envie de s'impliquer dans la vie de la société? Et de manière plus générale, est-ce que c'est toujours facile de faire bouger les jeunes?
Alors, facile, non, bien évidemment que non. Il est clair que là, on voit quand même l'exemple contraire, comme quoi il y a des jeunes qui bougent. Comme j'ai dit tout à l'heure, je reprends mon expression basique, ça fait plaisir à voir dans ce contexte actuel. Maintenant, je crois que pour eux, personnellement, ils s'épanouissent et on le voit là, ici, comment ils sont contents. Ils s'épanouissent pour eux, personnellement, et tout simplement, ils vont construire quelque chose. C'est une entreprise à part entière pour construire, apprendre des bases, des règles de vie en communauté, des compétences clés qu'ils vont pouvoir mettre en avant par la suite. Donc, c'est vraiment un début pour eux, à 14-15 ans, de construire tout simplement leur avenir et personnel, et bien sûr aussi, bien évidemment, professionnel.
Eh bien, merci à toutes et à tous, puisque l'heure tourne, hein, on va entamer notre prochain débat, Julien.
Oui, tout à fait, on va parler dans un instant de démocratie participative et citoyenne. Le temps, de remercier nos invités, notre grand témoin, Olivier Wallard. Je rappelle que vous êtes, chargé de relations entreprises au sein de Passeport Format, association basée à Béthune. Vous étiez accompagné de nombreux invités ce matin, cet après-midi, pardon. On salue Benoît Deck, directeur de la mission locale qui était venu parler de la garantie jeune, également Martial Debat qui était coordinateur de secteur au sein de l'antenne arageoise de l'association Culture et Liberté Pas-de-Calais. Nous avions également reçu Alice Arnaud, Aurélien Waterloo et Olivier Aubert qui travaillent pour le CCAS de Salomines, les deux premiers cités en tant que service civique, et le troisième nommé Olivier Aubert en tant que coordinateur, ainsi que Franciane Canlers qui était bénéficiaire du CCAS de Salomines. Et puis également, à l'instant, avec nous, Stéphanie Locqueville, chargée de mission jeunesse au sein de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, et les membres, quelques-uns des membres de l'association Double J à Arras, Jessie Pochol, secrétaire âgée de 14 ans, Andy Breton, membre, et également Maxime Bourgeois, membre, âgé respectivement de 14 et 15 ans, et le président Antonio Gramont, 15 ans, association junior Double J basée à Arras, pour financer un voyage en Pologne et faire bouger le quartier Jean Jaurès. Et dans un instant, après une petite pause musicale, eh bien on va parler de démocratie participative et citoyenne.
Your breath just next to my soul. I wanna feel oppressed. Africa, you follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile you can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, make it by, make it by, make it like. Ooh, make it by, makes my body dance for ya. Ooh, make it by, make it by, make it like.
Jane avec Makeba sur Radio Plus, 15h passées de 26 minutes et vous êtes toujours dans l'émission Plus de Fraternité. On attaque la dernière ligne droite de cette journée spéciale, Julien, avec donc pour terminer hein, la démocratie participative et citoyenne. C'est le dernier thème que l'on aborde aujourd'hui. Grande question, évidemment, assez complexe, il faut bien le reconnaître.
Et oui, il faut rappeler eh bien que c'est une initiative qui se met de plus en plus et qui s'exprime d'ailleurs sous diverses formes hein, cette démocratie participative et citoyenne. Et dans un instant, eh bien on va s'intéresser au conseil de développement de la communauté d'agglomération Béthune-Bruy Artois-Lys Romane, ex-Artois-Com. Je dis ex-Artois-Com et c'est important de le préciser parce que nous avons reçu l'ex-président qui est en attente eh bien de nouvelles nominations pour assurer la transition entre l'ancienne communauté d'agglomération et la nouvelle. On rappelle simplement eh bien, que les conseils de développement sont des instances obligatoires imposées notamment par la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, ainsi que la loi MAPTAM, imposée dans les communautés de communes ou d'agglomération de plus de 20 000 habitants, et qu'elles ont notamment vocation, Jean-Philippe, eh bien, à relayer les attentes, les inquiétudes parfois des citoyens auprès des élus. Ce sont des commissions composées de membres issus de la société civile, pas d'élus. Et pour illustrer notre propos, on vous propose de retrouver cette interview de Pierre Durier que tu avais reçue, Jean-Philippe, d'en savoir plus.
Voilà, et donc on verra bien effectivement hein, ensuite, suite à cette interview, cet extrait d'interview plutôt, le poids de ces conseils de développement.
Une instance de démocratie participative à l'échelon donc de l'agglomération. Cette expression démocratie participative se résume disons en une représentation de la société civile. Ça veut dire que ce ne sont pas des élus qui composent cette instance. Aucun élu, qu'il soit élu communautaire donc de l'agglo, qu'il soit même élu communal puisque le règlement intérieur nous l'interdit, alors que la loi ne l'interdisait pas, mais à l'interne de l'agglomération, les élus ne siègent pas. Ce sont des personnes donc, qui représentent des structures. C'est des structures qui sont à vocation très large. On y trouve des représentants donc, des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux, et associatif donc du périmètre de l'établissement public en fait pour nous donc l'agglomération.
Quelles sont justement les missions du conseil de développement?
Alors les missions c'est de favoriser on va dire le dialogue, la concertation avec les acteurs de la vie économique et sociale du territoire. Alors ça c'est important, c'est d'être les porteurs de leurs préoccupations. Et de pouvoir échanger avec les élus communautaires, puisque chaque année, on doit rendre un rapport d'activité sur ce qu'on a pu faire. Alors, on peut interpeller les élus sur des préoccupations que nous avons. On peut aussi être saisi d'une question en fait, à traiter par les élus. On appelle, il y a la saisine par les élus et l'autosaisine qui émane de nous. Depuis l'origine, on a toujours eu la préoccupation des transports, transports en commun, veiller à ce que on assure au mieux le transport pour l'ensemble des personnes. Et par exemple, le matin, on est intervenu un jour. Le matin, on constate qu'au moment de la, des écoles, en fait, de l'entrée dans les écoles, certains bus sont surchargés. Et bon, on a alerté, parce que bon, un élu n'est pas nécessairement là, au pied du bus. Par contre, il y a des parents d'élèves qui constatent qu'effectivement, bah, les bus sont bondés. Et donc, bon, là, une intervention. Alors, on n'intervient pas directement auprès du prestataire. On intervient auprès des élus qui, à ce moment-là, interpellent le prestataire, bon, pour nous, le SMT, en fait.
Le syndicat mixte.
Le syndicat mixte des transports, qui couvre à la fois Béthune, Hénin-Carvin et Lanciévin, en fait. Hein,
donc c'est le SMT Artois-Gouel.
Voilà, c'est ça.
Un moyen, en fait, hein, de faire remonter des informations du bas. Hein.
Tout à fait. Ça nous paraît important, en fait, de pouvoir être, les porte-parole. J'ai coutume de dire que nous ne sommes pas représentatifs au sens strict du terme. Mmh. Nous représentons la société civile à notre manière, puisque la composition du conseil est quand même très diverse. À un moment, par rapport au transport, par exemple, certains représentants d'entreprises, des milieux économiques, soulevaient le problème que les zones d'activité, bon, je pense qu'on est ici à proximité du parc d'activité
Artois-Flandre.
Artois-Flandre, oui. Et les bus ne les desservent pas.
Ça commence.
Alors voilà, il y a un début, effectivement. Mmh. Non, mais il y a une prise de conscience, je crois, bien évidemment. Alors que bon, les milieux économiques nous disaient, mais nous, il y a une contribution au transport et en définitive, les salariés de nos entreprises ne bénéficient pas de cette possibilité. Alors voilà, il y a des choses qui avancent tout doucement. Je pense qu'il y a une prise de conscience véritablement, et c'est ça qui permet, bon, à la démocratie, enfin la participation des citoyens, je dirais, à la vie de leur territoire, en fait. Et au développement.
Et avec des moyens, vous me disiez en préparant un petit peu cette interview, hein, surtout parce que ça c'est important aussi d'avoir les moyens pour pouvoir travailler correctement.
Alors oui, on a eu l'avantage dès le départ au sein de l'agglomération d'avoir une volonté des élus de mettre des moyens à notre disposition, c'est-à-dire on a une secrétaire administrative qui est animatrice, qui peut assurer toute la logistique, faire des comptes rendus, envoyer des invitations, parce que on a tous un mandat bénévole, donc évidemment on n'est pas rémunéré, bien entendu. L'aglo met aussi à disposition des salles de réunion, toute une logistique qui nous permet de travailler dans les meilleures conditions et de nous réunir surtout dans les meilleures conditions. On se réunit soit au siège de l'agglomération à Béthune, donc soit à Neux, bon, ça peut être dans d'autres lieux, ce qui nous permet surtout de découvrir un peu le territoire, en fait, et sans doute avec l'extension, on va dire, du géographique de l'agglo, on se déplacera sans doute dans la région de l'Hilaire ou d'Isbert pour bien prendre, enfin, la mesure de notre rôle qui est de couvrir l'ensemble des besoins et des attentes des habitants de ce territoire.
Qui peut participer à ce conseil? Vous y avez déjà répondu un petit peu, mais comment ça se passe concrètement? Il y a des élections?
La composition donc de ce conseil est fixée par le conseil communautaire, donc les élus qui ont déterminé un conseil composé de 75 membres au maximum, répartis en 4 collèges. Le collège monde économique, donc toutes les structures qui relèvent du monde économique, alors économie, y compris économie sociale et solidaire. Ensuite, le collège des syndicats de salariés, syndicats patronaux, en fait organisations professionnelles. Ensuite, un collège service public, personnes qualifiées. Et donc, dans ces 3 collèges, il y a 15 membres maximum. Et un dernier collège qui est composé de toutes les associations qui relèvent de la vie collective, familiale. On a un ensemble d'associations en particulier là où il y a 30 membres. Il y a eu un appel à candidature dans le magazine de l'agglomération de février, qui a demandé aux structures de bien vouloir poser leur candidature et de désigner une personne qui les représentera. Alors généralement c'est pas eux qui choisissent le collège, c'est plutôt les élus qui le répartissent dans les différents collèges. Et alors comment ensuite ces 75 membres vont s'organiser? Il y a d'abord le vote du président par l'ensemble des membres. Et ensuite, il y a un vice-président qui est élu, mais par collège. Et ça constitue donc un bureau constitué donc d'un président et de quatre vice-présidents. Mmh. Alors, à ce bureau peut s'ajouter, le cas échéant, l'animateur de commission. Voilà, ça se fait très, en fait, très démocratiquement, comme dans beaucoup d'associations, de toute façon, c'est plus que, on n'a pas le statut d'association, on n'est pas personnalité morale, hein.
Oui.
On est vraiment, on existe de par la volonté des élus communautaires. Chez nous, le président n'est pas nommé par le président de l'agglo.
Oui.
À la MEL, donc
à la métropole de Lille, hein.
De Lille, c'est le président de l'agglo qui nomme le président du conseil de développement. Donc c'est pour expliquer qu'effectivement, après le président reste fait ce qu'il veut entre guillemets, mais je veux dire c'est la désignation se fait par l'intermédiaire du président de l'agglo. C'est pas le cas chez nous. Depuis l'origine d'ailleurs, les élus ont accepté que le groupe de conseil de développement s'organise librement en fait et vote ses responsables comme il l'entendait.
Ce que vous nous expliquez en somme, c'est que le degré de démocratie entre guillemets participative n'est pas le même partout.
Pas tout à fait, oui. Le mot participation, c'est vraiment des gens engagés qui viennent apporter leur contribution, leur réflexion, leur proposition, leur réaction aussi.
Le conseil de développement dispose donc de compétences qui lui sont propres et choisit ses propres thèmes de prédilection. Découvrons-les ensemble en compagnie de Pierre Durier.
On a historiquement toujours quand même eu comme préoccupation transport, mobilité. En fait, je veux dire, on vient d'ajouter le mot mobilité parce que bon, je pense que c'est important.
Et c'est vrai qu'il y a des quartiers où la mobilité elle est compliquée.
Et oui, exactement. Mmh. Oui, c'est sûr. Et il y a sans doute une éducation à la mobilité d'ailleurs. Une préoccupation par rapport à l'environnement et au dialogue avec le monde agricole, parce qu'on a parfois des mondes qui se...
S'affrontent un petit peu.
On a une commission aussi emploi, insertion, jeunes. On a une commission santé. Dès 2003, on avait mis le doigt sur la démographie médicale, c'est-à-dire qu'on aurait dans des zones un manque de médecins généralistes, en particulier sans parler des spécialistes qui ont un peu de mal à venir sur notre territoire.
Quelle garantie aussi y a-t-il pour l'indépendance justement de ce conseil de développement? Est-ce qu'il y a des garde-fous?
Bon, j'ai expliqué de toute façon qu'on s'est organisé librement, on va dire. Nous sommes dépendants de la structure Artois.com, enfin maintenant de la nouvelle agglo Béthune Bruet Artois Lys Romane. Mais nous nous organisons comme nous souhaitons, c'est-à-dire qu'on a il y a un peu plus d'un an voulu aborder l'étude des énergies renouvelables. Et en particulier, la méthanisation, l'hydrogène, panneaux solaires, éoliens, etc. Dans notre idée, c'est important pour l'avenir, en fait, de connaître aussi ces énergies, voire d'influencer peut-être aussi les orientations. Je prends cet exemple du centre de valorisation de la Beuvrière, qui aujourd'hui brûle les déchets, peut-être que demain on pourrait faire autrement que de les brûler. En fait, il y a peut-être aussi une partie qui pourrait passer en méthanisation. Ça veut dire qu'il faut porter des projets locaux, en fait, des micro-projets qui est en lien avec le monde agricole d'ailleurs, puisque j'ai un ami qui a fait ça sur Anescure, ça marche très très bien. À la fois pour lui et puis pour la collectivité, de toute façon. Et c'est des choses qu'on a toute liberté, entre guillemets, d'inviter qui on veut dans nos réunions. Et à l'issue d'ailleurs de ces réunions thématiques sur les énergies renouvelables, on a même publié un petit document qu'on a diffusé très largement. Et ce document, on l'a imprimé, on l'a fait imprimer. L'agglomération a pris en charge les frais d'impression et de diffusion. C'est pour expliquer que oui, je veux pas dire qu'on fait ce qu'on veut. Enfin, on fait ce qu'on a envie de faire en lien avec la préoccupation soit des membres du conseil, soit de la population. En fait, on a travaillé aussi sur les problèmes de. On a créé aussi un groupe sur l'eau. On a eu un certain nombre de conférences sur l'eau. Alors sur le prix de l'eau, sur la qualité de l'eau, sur les problèmes de
d'inondation,
d'assainissement.
Oui.
Et non, mais bon, on sent, et ça, alors c'est pas du tout parce qu'on sait que demain, d'ailleurs, l'eau potable en particulier va être prise en charge par l'agglomération. Donc, on a besoin. Enfin, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait besoin aussi les uns et les autres d'une meilleure connaissance de certains sujets, ce qui fait qu'on passe des soirées, on va dire, un peu à se former aussi pour ensuite mieux réfléchir et échanger ensemble pour déterminer un peu des positions. En fait, on n'a pas nécessairement une position a priori, parce que parfois le sujet est complexe. Il faut l'examiner et l'étudier préalablement et avoir des avis un peu différents.
Vous n'êtes pas sans savoir que la défiance à l'égard du monde politique s'accentue, en quoi un dispositif comme celui justement des conseils de développement peuvent contribuer à changer le regard et sur le monde politique et sur la politique en général, qui est censé au départ concerner l'ensemble des citoyens, pour peu qu'ils s'y impliquent.
L'avantage qu'on a, enfin nous au sein des conseils de développement, c'est de pouvoir échanger peut-être plus régulièrement avec les élus, et d'arriver aussi à ce que les élus... nous écoute, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une configuration un peu particulière, c'est que parfois, bon, je vais peut-être être un peu dur vis-à-vis des élus, mais les élus sont élus et jugent que, durant la durée de leur mandat, ils savent ce qu'il y a de bien pour la population. Je pense que généralement, ils le font dans de bonnes intentions. Bon.
Oui.
C'est clair. Non, mais je veux dire, moi, c'est pas le procès que je fais là.
Pas, oui.
Ils sont dans de bonnes intentions. Sauf qu'à un moment donné, il faut régulièrement, en fait, demander aux gens ce qu'ils en pensent, en fait. Il faut les associer au processus de décision. Et on s'aperçoit que quand il y a des décisions parfois difficiles à prendre, où il y a des intérêts divergents à trancher, il faut, si on a associé la population, si elle est concernée en particulier, dès le départ, dès le début du processus, où il y a pu y avoir confrontation, échange, débat... j'oserais dire coup de gueule même, oui. Pourquoi pas, c'est beaucoup mieux, les gens comprennent, parce que trop souvent, parfois, les élus prennent des décisions et ont oublié qu'il fallait expliquer préalablement. Non, mais parce que les gens ne comprennent pas toujours les décisions qui sont prises, et qui sont pourtant de bonnes décisions à terme. Hein. C'est important ça, c'est d'associer. Et je crois que le conseil de développement y contribue, en fait.
Et voilà donc pour cette interview de Pierre Durier, ex-président de l'ex-conseil de développement de l'ex-communauté d'agglomération Artois-Com. Mais oui, parce que la transition est actuellement en train de se faire. Et d'ailleurs, si vous souhaitez réécouter l'interview en intégralité, ça se passe sur le podcast de l'émission Savoir Plus, radioplus.fr, rubrique podcast, émission Savoir Plus, l'émission du 9 mars. Avec nous donc Guillaume Essen, chargé de la vie associative au sein de la Ligue de l'enseignement. Et bien pour les 10 dernières minutes qui nous restent à passer ensemble, votre réaction, Guillaume Essen, à cette interview de Pierre Durier?
Pour moi c'est une bonne initiative, au sens où toute initiative qui implique plus de participation et plus d'implication des habitants et des citoyens est bonne à prendre. Après, sur le format, forcément c'est toujours un peu compliqué d'associer l'ensemble des habitants. Mais c'est le genre d'outils qu'il faut multiplier, clairement.
Vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être un peu plus de pouvoir à ces instances ?
Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir décisionnel, en effet. Ils sont consultatifs et il y a quand même un noyau d'élus autour, même s'ils sont pas, même si c'est pas eux qui chapeautent tout. En effet, c'est des instances qui sont, des embryons démocratiques qui mériteraient d'être développés, à mon sens.
Est-ce qu'elles ont un réel poids, d'après vous ?
Elles ont un réel poids au sens où elles permettent aux citoyens de s'emparer des questions. Ça permet déjà que les gens s'informent des problématiques qu'il y a sur leur territoire et qu'ils puissent derrière mettre un peu la pression sur leurs élus sur certaines questions. En ce sens où elles n'ont pas de poids de décision. Donc voilà, ça reste toujours pas totalement satisfaisant.
Et Est-ce que justement ces conseils de développement sont suffisamment connus du grand public d'après vous, ou est-ce qu'il y a une lacune de ce côté-là?
Comme ça, un brûle pour point, je dirais que c'est pas très très connu. Pour moi, j'en avais pas entendu spécialement parler avant qu'on prépare cette émission. Pourtant, je suis quand même assez au fait des différents dispositifs qui peuvent exister. Je pense que je suis un citoyen quand même assez, en tout cas, alerte. Et c'est le genre de dispositif que je connaissais pas avant.
Effectivement, ça nécessite un peu plus de communication.
Oui, qui permettrait d'associer plus d'habitants aussi, puisque déjà communiquer sur ce dispositif permettrait de le rendre plus représentatif, je pense.
Alors, que justement la réappropriation des décisions de la vie de la cité par les citoyens, est-ce que c'est un peu le futur de la démocratie?
Le futur de la démocratie, bien malin, et qui saura le deviner. En tout cas, c'est un thème qui revient depuis quelques années, notamment à l'occasion des grandes échéances électorales, puisqu'on... Il y a en 2012, je me souviens, que ça revenait beaucoup, tout ce qui était démocratie participative avec Madame Royal, non, ou encore avant, non, en 2007 déjà, Madame Royal, puis en 2012, là on parle pas mal de candidats parlent des référendums d'initiative populaire sur le modèle suisse qu'on nous vend aussi depuis un petit moment. Et on verra s'il y a des actions en ce sens prochainement.
Il y a aussi tout un pan de l'économie sociale et solidaire qui justement prône une plus grande participation de l'ensemble des citoyens à tous les niveaux, en fait, même au niveau de l'entreprise.
Oui, là c'est au niveau s'approprier son outil de travail et devenir soi-même gérant, par exemple sur le modèle des coopératives, que ce soit en SCOP ou en SIC ou en CAE, enfin tous les différents modèles qui peuvent exister. Il y a le modèle associatif aussi, bien sûr, qui permet d'associer plus à la décision. Moi, je pense que, très clairement, plus il y a d'initiatives de ce type, plus on développe la vie associative, ça participe à développer la vie démocratique et citoyenne. Puisque c'est s'impliquer dans la cité, en fait, c'est ça. Donc, plus on permet aux gens de s'impliquer et on leur donne des outils forts, plus il y a de démocratie participative.
Comment, au sein de la Ligue de l'Enseignement, vous faites vivre justement la démocratie participative et citoyenne?
Alors, si on se base sur ce que je viens de dire, c'est en essayant de développer la vie associative, permettre aux associations de développer des projets, leur donner une certaine liberté de mouvement. Il y a la formation des bénévoles, il y a l'information aussi sur comment informer des différents dispositifs. Les juniors associations, par exemple, qu'on vient de voir, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, permettre à des jeunes de monter des projets par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Il y a la participation aussi dans le soutien au conseil citoyen, qui est un autre dispositif qui se situe dans les quartiers prioritaires politique ville. Là on en fait un travail d'accompagnement des conseils citoyens, de certains conseils citoyens, sur tout ce qui est animation, vie associative et développement de l'implication des gens sur ces thématiques-là.
On a entendu dans le reportage des divergences de fonctionnement selon les différentes communautés de communes, les différentes communautés d'agglomération dans la mise en place de ces conseils citoyens. Est-ce qu'il faudrait un petit peu standardiser leur fonctionnement, à votre avis?
Là-dessus, je sais pas. J'avoue que c'est pas... En tant que tel, je sais pas si...
Ce qui était reproché quelque part,
par rapport à la mail
Oui, voilà.
Mais ça, je n'ai pas spécialement d'avis sur la question de comment est-ce qu'on doit gérer un conseil de développement.
Vous pensez que ça doit rester à discrétion de chacune des communautés de communes, c'est-à-dire elles font un peu ce qu'elles veulent avec certaines règles quand même.
Avec une idée de plus on a un processus démocratique élaboré, et mieux c'est. Personnellement, je pense que je vais plus tendre vers le modèle présenté là que vers le modèle de la MEL qui est plus dirigiste, puisqu'il me paraît plus démocratique. Après, de là à établir un standard, pas spécialement d'idée là-dessus.
Comment encourager le développement de la démocratie participative et citoyenne auprès des premiers concernés, c'est-à-dire auprès des citoyens?
Eh bien, déjà, leur laisser une place. Je pense que ça, c'est la première des choses à faire. Les informer, leur faire un gros travail aussi d'éducation aux médias, d'éducation à l'information, puisque pour parler d'un sujet de société qui va concerner tout le monde, il faut que tout le monde puisse venir avec des billes et des informations précises et pertinentes, puisque celui qui détient le savoir aura plus facilement l'ascendant et prendra la parole, contrairement à celui qui est dans l'ombre. Donc permettre aussi à tous les citoyens de s'informer d'une façon plurielle et libre, je pense que ça participe notamment à la vitalité démocratique.
Alors on arrive au terme de cette journée, de cette émission spéciale Plus de Fraternité, qui a été riche en échanges d'expériences. Quel bilan vous en tirez à chaud, Guillaume Essen, en tant que chargé de mission vie associative au sein de la Ligue de l'Enseignement ?
De cette journée ?
De cette journée, oui.
Eh ben, j'en suis très heureux. C'est la deuxième fois que je peux venir ici pour qu'on puisse discuter ensemble d'un peu des projets dans le cadre d'une semaine départementale menée par la Ligue. Moi, je suis très content du partenariat qu'on a pu nouer. Je trouvais que c'était très dynamique, très très riche, beaucoup d'invités, beaucoup de données, beaucoup d'informations. Et je suis très heureux d'être reçu ici.
Eh bien, on va vous remercier, Guillaume Essen, ainsi
merci
que l'ensemble de nos invités qui ont participé à cette émission spéciale Plus de Fraternité, qui, je vous le rappelle, s'inscrit dans le cadre de la 5e semaine départementale Fête la Fraternité, qui se déroule dans tout le Pas-de-Calais jusqu'au 25 mars. Très rapidement, Guillaume Essen, un petit mot pour parler de l'événement qui aura lieu à Bruay-la-Bussière, qui va être un petit peu la conclusion et le point d'orgue de cette semaine de la Fraternité.
Sur Bruay, oui, la clôture du Festival Diversité avec des restitutions de tout un tas de pratiques artistiques, des concerts, de la pratique sportive, plein de choses. Hier sur la Lys, un festival hip-hop aussi, si vous êtes de ce côté-là, n'hésitez pas à y aller. Tribu sans issue, festival gratuit, plein d'activités sur la vie du hip-hop. Et puis plein de dates un peu partout, un bal folk à Hénin-Beaumont, organisé par l'Amicale Laïque, et la projection par animateur du Petit Prince à Noël-Godot. Gratuitement et tout un tas encore ce week-end sur la côte, le littoral, d'événements associatifs.
Et tout le programme, bien sûr, est à retrouver sur le www.laligue-npdc.org.
Et sur Facebook, bien
sûr. Et sur le Facebook, La Ligue 62. On va remercier également, bien sûr, tous nos invités. Remercier également Christophe Grébert, Jean et Annie Fubiani de nous avoir laissé leur créneau pour permettre la bonne réalisation de cette émission. Remercier également Christophe Pasquier, notre directeur d'antenne, Martine de l'émission L'Air du Temps, qui a beaucoup contribué ce matin à cette émission. Et puis merci également à Jean-Philippe qui était à la technique.
Et merci à toi, Julien, donc pour ta participation à cette émission, bien évidemment.
Et on se retrouve bien sûr dans quelques minutes. J'aurai le plaisir de vous accompagner sur la route du retour à la maison. Ce sera dans Localement Plus à partir de 16h. Et juste avant de se quitter, je vous rappelle que l'intégralité de cette émission sera disponible en podcast d'ici quelques minutes sur le www.radioplus.fr, rubrique émission spéciale et atelier radio.